Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labouroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, composition française, retour sur une enfance bretonne, de Mona Ouzouf. Née en 1931 dans un petit village du Léon dans le Finistère, Mona Ouzouf gardera toujours sa double identité, issue de ses racines bretonnes et de son éducation laïque. Ses parents, tous deux instituteurs, sont des militants de la cause bretonnante. Lorsqu'elle perd son père, à l'âge de 4 ans, elle est élevée par une grand-mère et une mère à la fois tendre et austère, très attachée à la décence et à la dignité. Elle se réfugie alors dans les livres qui lui ouvrent les horizons auxquels elle n'a pas accès dans l'univers clos du cocon familial. Après des études de studieuse au lycée de Saint-Brieuc, puis en classe préparatoire à Paris, où sa mère et sa grand-mère la suivent, Mona Ouzouf est admise à l'École nationale supérieure de jeunes filles et en sort agrégée de philosophie en 1955. C'est durant cette période qu'elle rencontre des historiens qui vont orienter son parcours. Son mari, Jacques Ouzouf, 1928-2006, avec qui elle aura deux enfants, et François Furet, qui lui insuffle sa passion pour la Révolution française. Professeure de philosophie devenue historienne, elle livre une œuvre pétrie de littérature, portée par un style puissant et limpide, qui fera d'elle l'une des plus grandes intellectuelles françaises. L'ensemble peut paraître éclectique. Ses livres portent sur la Révolution française, la littérature, les femmes, l'école. Sa posture se situe résolument du côté de la pondération, préférant les chemins de la réforme plutôt que de la Révolution. En 1956, elle quitte le Parti communiste, auquel elle aurait adhéré durant ses études, pour se tourner vers une gauche plus modérée. Dans ses écrits sur la Révolution française, ses sympathies vont aux Girondins et non pas aux Jacobins. En 1988, à la veille du bicentenaire de 1789, elle publie avec François Furet un volumineux dictionnaire critique de la Révolution française, qui ne manquera pas de faire débat au sein de la communauté historienne. Dans ses livres sur l'école, elle plaide pour une culture républicaine plus attentive aux singularités individuelles. Elle rend un vibrant hommage à l'école de Jules Ferry, qui pour elle a travaillé à l'unité nationale, tout en restant profondément attachée à la liberté de conscience face aux catholiques conservateurs. Cette fille d'instituteur est d'ailleurs un pur produit de l'ascenseur social qui a fonctionné durant une grande partie du XXe siècle grâce à la mise en place de l'obligation scolaire. Constamment en quête d'une définition de l'identité nationale, elle livre en 2011 son autobiographie, Composition française, sous-titrée « Retour sur une enfance bretonne », où elle raconte son histoire, ballottée entre la religion et la méritocratie laïque, l'imaginaire celtique et le messianisme républicain. En 2014, elle reçoit le Grand Prix de la BNF pour l'ensemble de son œuvre. Toujours favorable à la conquête des droits et des libertés, Mona Ouzouf, élevée par deux femmes, se déclare féministe. Sa personnalité modérée la conduit cependant à s'ériger à plusieurs reprises contre les tendances radicales de ce mouvement. Pour elle, la France est la terre d'invention de l'amour courtois, la patrie d'un commerce apaisé entre les hommes et les femmes, fruit d'une longue histoire qui cultivait notamment dans les salons de l'Ancien Régime la galanterie et une civilité permettant aux deux sexes de converser harmonieusement. Elle avait beau user du français avec moi, ma mère ne m'en communiquait pas moins par ce français calqué sur les tournures du parler breton, le génie de cette langue vigoureuse, expressive, anthropomorphique. la brume du matin est la pitance du soleil. Les vagues sont les chevaux de la mer. Le confluent est le nez des deux eaux. Et on achève une lettre de condoléances en recommandant à l'endeuillé Dalchid Madantarul, agrippez-vous à la table. Tout ici, dit la méfiance qu'inspire la mer, dont les paysans n'usent que comme d'une prairie à Goémon, rude à faucher, quand il faut entrer à mi-corps dans l'eau glacée, ramener avec le rastel, le large râteau, les lourdes masses flottantes, charger les charrettes. Quand bien plus tard, au collège, on me demandera de composer un sonnet sur les travaux de la campagne, c'est au laboureur de ces champs amphibies que je songeais, et j'ai encore en mémoire les deux alexandrins du dernier tercé que j'espérais de facture hugolienne. Et leur regard aigu de ramasseur d'épaves scrute l'horizon noir que l'écume blanchit. Est-ce la raison pour laquelle j'aime tant l'école ? J'aime tout ce qu'on y apprend et tous les exercices. La dictée, avec la voix lente, persuasive et solennelle de la maîtresse qui s'attarde généreusement aux liaisons et cherche à suggérer les bons accords. Les récitations, pour lesquelles il est si facile de triompher sur l'estrade. Les rédactions, où nous devons si souvent raconter ce que nous n'avons jamais expérimenté. Un pique-nique au bord de l'eau, une fête de famille, une promenade en forêt, une tempête en mer. Mais rien de tout cela n'est embarrassant, puisqu'on peut loger dans un récit de pure fiction toutes ces lectures. Quelque chose, par ailleurs, nous chuchote que ce n'est pas la vérité qu'on nous demande à l'école. Nul n'attend de nous un constat réaliste. On nous fait mettre en dimanche pour chanter, comme nous savons qu'il faut le dire dans les récréations des travaux et des jours imaginaires. Et c'est bien ce qui nous convient. Ma mère est le plus souvent debout, entre l'évier et le fourneau de la cuisine, la louche du café à la main, ajoutant ou ôtant une rondelle de fonte au gré des plats qu'elle prépare, tournant la pâte à crêpes, raclant du chocolat sur les tartines, pour 4 heures, baignée dans la lumière d'ouest qui vient de la fenêtre. Je l'ai si souvent dessinée que l'image est nette. Elle se tient aussi droite que l'arthrose le lui permet, enveloppée dans d'immuables jupes noires, et jamais sans sa coiffe. L'attacher est son premier geste du matin, bien avant l'éveil de la maisonnée. Quelle honte si le facteur venait à la surprendre en cheveux. Je ne la verrai ainsi que sur son lit d'agonisante. Son souci constant est la dignité. Nul ne songerait du reste à lui contester. Sa règle morale essentielle est de ne jamais se mettre dans une situation telle qu'on puisse en avoir honte. Gun Harveuse. Avec la honte et l'expression qui pour elle englobe tout ce qu'il est inconvenant de faire et même de penser. Elle est la reine de la maison, pleinement consciente de sa souveraineté, convaincue que si on n'a pas grand-chose à opposer au malheur, du moins l'honneur des femmes est d'adoucir la vie avec des gestes simples, proposer le réconfort d'une tranche de pastéchou ou d'une tasse de café. Du café, vous aurez. C'est la phrase rituelle quand survient une visite et la cafetière émaillée à fleurs ne quitte pas le coin de la cuisinière. Telle est la figure tutélaire de mon enfance qui nourrit, soigne, console, rassure. C'était la chronique littéraire de Gilles Labouroir. À bientôt.